Laughter!
Bonjour et bienvenue dans le numéro 73 de Jaf Tamer. Jaf Tamer, l'émission de la famille contemporaine avec Stéphane depuis le Périgord, depuis Périgueux. Aujourd'hui, le début d'une série de 3 émissions avec le docteur en neurosciences Joël Monzé qui va nous expliquer dans l'émission d'aujourd'hui déjà sa présentation, son parcours détaillé, qu'est-ce qu'un docteur en neurosciences. Nous regarderons ensuite pour voir si l'enfant est universel, quelle peut être l'influence des environnements culturels avec l'inné, l'acquis et les transmissions parents-enfants du stress, des traumatismes et des compétences acquises. C'est une chance, M. Monzé fait partie des pointures d'Amérique du Nord. Nous l'avions rencontré lors de la conférence Lux Media d'il y a quelques semaines. Monsieur est auteur et intervient régulièrement sur les sujets avant-gardistes du développement du cerveau de l'enfant et donc de la compréhension de l'humain, tant dans son développement que dans son éducation. Mais tout d'abord, quelques petites informations et actualités, ne bougez pas, c'est tout de suite après ça.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Nous voudrions commencer cette émission par quelques perles des magistrats prononcées lors d'audiences de divorce. Nous trouvons cette liste dans la newsletter juillet-août de l'association Égalité Parentale de M. Thierry Berger, dont nous sommes proches et très sympathisants. Alors, il y en a quand même de belles. Hein. Nous avons vu un père qui s'est vu infliger 3 jours de nuit pour outrage à magistrat, car dans un courrier, il cite une juge par mademoiselle et non madame. Donc voilà, 3 jours de garde à vue. Un autre s'est vu répondre « Si vos filles vous manquent tant, vous pouvez vous acheter un chien ». Ce qui est toujours très agréable. Une autre, là, un enfant a besoin d'un père, mais ce n'est pas le sujet. Par habitude, je donne les enfants à leur mère. Voilà. Ah oui, elle est belle celle-là aussi. Vous n'êtes qu'un père, entrez ça dans votre crâne. Madame a eu tort de partir, mais il n'est pas envisageable de séparer les enfants de leur mère. Ouais, celle-là aussi, elle est belle. Est-ce que je peux vous poser une question? Le magistrat répond oui, mais c'est quand même la seconde question que vous me posez. Donc il faut savoir qu'on attend quand même plusieurs mois, hein, parfois plusieurs années, pour avoir une audience qui dure 13 minutes. Moi, je rappelle que dans mon histoire personnelle, la juge m'a expliqué qu'elle n'aimait pas les balavoines. Elle m'a demandé si je votais Front National parce que ce n'était pas compatible selon elle avec les valeurs éducatives. Le pire étant ceux qui se font demander devant tout le monde dans un bureau rempli de femmes comment ils font pour leurs besoins fondamentaux maintenant que madame est partie. Enfin bon voilà, ça c'est l'ambiance des affaires familiales en France au 21e siècle, la misandrie qui peut être ambiante, hein, la misogynie c'est pour les femmes, la misandrie c'est pour les hommes, et c'est pour cela que nous avons une association et que nous nous battons pour l'égalité homme-femme car il faut que ça change.
RLP
Radio Libre en Périgord.
RLP 102.3, aujourd'hui avec Joël Monzé. Joël Monzé, Monsieur Monzé est docteur en neurosciences, a commis une dizaine d'ouvrages et s'intéresse beaucoup à la recherche fondamentale sur l'enfance, la petite enfance, l'adolescence et le développement humain, si j'ai bien compris. Docteur, bonjour, vous allez bien?
Bien, et vous-même?
Oui, très bien, merci beaucoup. Alors, je vais vous demander de vous présenter, d'indiquer votre parcours, votre expertise, de dire qui vous êtes, afin, par la suite, pour les questions, que nous comprenions bien l'origine de votre voix, dans quel cadre vous vous exprimez et vraiment qui vous êtes pour répondre à ces questions.
Ok, alors si j'utilise en fait des mots plus habituels en France, j'ai fait un bachelor en pédagogie à la base, j'ai enseigné pendant quelques années, pendant ce temps-là j'ai fait un premier master en psychomotricité qui est une technique d'intervention qui est très connue dans le domaine en France et en Belgique notamment. Et puis durant ce master-là, j'ai eu des contacts parce que je cherchais de meilleures connaissances en neurosciences parce que les jeunes, les enfants et les ados avec lesquels je travaillais étaient aux prises avec de très grands troubles. Donc, il y avait de multiples handicaps et ma connaissance en psychologie ou ma connaissance en pédagogie était bien établie. Mais je me rendais compte que pour vraiment répondre en fait aux besoins de ces jeunes-là, j'avais besoin d'aller chercher un autre bagage que simplement l'évaluation des déficits dans lesquels eux étaient plongés à cause des différents handicaps qui perturbaient leur développement ou leur vie tout court. Donc j'ai fait un premier stage en fait dans un laboratoire à l'Université de Sherbrooke au Québec, au Canada. D'accord. Et de deux choses l'une, premièrement, ça a confirmé mon intérêt à faire des neurosciences et deuxièmement, je suis tombé en amour avec la belle province, ce qui fait que j'ai quitté ma Belgique. J'ai fait un deuxième master en neurosciences appliquées au corps en mouvement parce que ça venait vraiment répondre à mes questionnements cliniques. Et de là, ben, j'ai décidé d'aller faire carrément mon doctorat en neurosciences à la faculté de médecine de l'Université de Montréal parce que je voulais avoir une meilleure compréhension de comment les cellules fonctionnent les unes par rapport aux autres, comment l'orchestration du cerveau se faisait. Et donc, j'ai fait de la recherche fondamentale pendant 6-7 ans chez le singe pour arriver justement à mieux comprendre comment le cerveau fonctionne. Puis mon intention au départ, c'était de continuer ce genre de recherche-là, mais dans des zones qui sont très stimulées par la psychomotricité. Et j'en parlais justement avec le directeur du centre de recherche où je faisais mon doctorat, parce que lui était intéressé à mon parcours de recherche et à mes intentions ultérieures. Et je lui explique ce que je veux faire. Et puis là, à ce moment-là, le directeur me dit « Mais Joël, te rends-tu compte que si jamais tes hypothèses, elles sont vraies, le pouvoir que tu vas donner aux compagnies pharmaceutiques pour contrôler la pensée humaine ?» Et ma carrière de chercheur a été à ce moment-là vraiment bouleversée parce que je ne pouvais plus faire ce genre de choses-là. Alors, il restait éventuellement faire de l'imagerie cérébrale, mais l'imagerie cérébrale, elle est très... vous savez, les noyaux dans lesquels moi j'ai fait des enregistrements chez Message pendant plusieurs années, on ne les voyait même pas en imagerie cérébrale. Pourtant, tout notre corps est représenté là-dedans. Donc, il y avait une première problématique d'ordre technologique et on n'est pas plus loin 20 ans plus tard, en fait, à ce niveau-là. Et la deuxième problématique, c'était la problématique de l'éthique. À quel moment est-ce qu'un chercheur franchit une limite qui devrait ne pas être franchie pour le bien de l'humanité? Et il y a un épisode de Tintin que vous connaissez peut-être. J'ai oublié de dire tout à l'heure que j'étais d'origine belge. Donc, pour moi, l'univers de la bande dessinée fait partie de ma culture depuis ma tendre enfance. Et dans l'affaire Tournesol, quand Tournesol se rend compte que sa découverte peut amener exactement l'inverse de ce que lui voudrait faire, lui, au départ, il est dans le plaisir de découvrir des technologies, mais il se rend compte que l'Empire Bordure veut l'utiliser comme une arme, eh bien, il va détruire son microfilm. Donc, quelque part, il y a des gens, puis je pense que j'étais beaucoup aussi inspiré par des gens comme Jacques Testard comme d'autres chercheurs qui se sont posés des questions sur les aspects de l'éthique. Et donc, c'est là que, par la suite, j'ai fait un post-doctorat en éthique clinique pour essayer de bien comprendre justement tous nos enjeux par rapport aux médicaments, par rapport aux diagnostics psychiatriques et autres. Et c'est là que, bon an, mal an, j'ai développé une expertise qui, à la fois, reste... Je suis un clinicien, donc je fais de la psychothérapie de manière régulière. Je fais beaucoup de formations de gens qui sont cliniciens ou qui sont éducateurs. Mais j'ai écrit aussi des livres, comme vous le disiez tout à l'heure, aussi bien dans le développement de l'enfant et le développement de l'adolescent, le développement de la personne, mais également des réflexions sur notre rapport à la science et notre rapport en fait aux médicaments et à l'origine justement des processus, justement des compréhensions de l'être humain.
Donc vous mêlez en fait la psychologie, c'est-à-dire l'étude des fonctionnements internes, à l'aspect clinique et médical cellulaire du cerveau. C'est bien ça, j'ai bien compris?
Oui, tout à fait. Et c'est pendant longtemps, j'ai fait des allers-retours entre qu'est-ce qu'on connaît de la science, qu'est-ce qu'on voit en clinique, qu'est-ce qu'on voit en clinique et qu'est-ce que la science peut nous aider pour comprendre la clinique. Donc, pour moi, l'aller-retour est nécessaire. Et quelque part, bien souvent, en Europe, on a une compréhension peut-être un peu plus humaine du développement de la personne. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que un des gros défauts de la psychomotricité, c'est qu'il y a peu d'études quantitatives pour prouver des choses que logiquement on voit sur le terrain. Mais en même temps, comment quantifier les effets positifs de la psychomotricité? Pourtant, c'est une pratique qui existe depuis 70 ans en France, qui existe depuis presque aussi longtemps en Belgique, mais on n'a pas de données quantitatives parce qu'on se base avant tout sur l'expérience clinique. Je dirais que dans le même temps, notre vision européenne d'une commotion cérébrale, ça va être la même chose. Les signes cliniques sont plus importants qu'une recherche quantitative. Mais je suis en Amérique du Nord depuis plus de 20 ans, d'accord? Donc là, je suis formé dans un environnement où le quantitatif prime sur l'expérience clinique ou l'expérience humaine. Donc là, il y a des clashs et je pense qu'il y a des ponts très importants à essayer de créer entre les deux parce que je crois que beaucoup d'éléments de souffrance humaine aujourd'hui s'accentuent parce qu'on a trop départementalisé la recherche scientifique dans le domaine médical, y compris dans le domaine psychologique.
RLP 102.3 avec Joël Monzé, deuxième partie. Dites-moi, on peut vous appeler docteur, c'est bon, ça convient, c'est faisable?
Oui, mais vous pouvez m'appeler Joël, c'est plus simple.
Oui, tout à fait, c'est un peu formel parfois. Dites-moi, l'enfance, vous étudiez beaucoup l'enfance. L'enfance est universelle, mais France, Québec, Amérique du Nord, Europe, vous venez de dire qu'il y a des environnements culturels qui sont différents par rapport à la science, mais l'enfance est-elle la même? Le développement des enfants est-il le même en Amérique du Nord qu'en Europe? Ou est-ce qu'il y a des différences?
En fait, il faut savoir que plus l'enfant est jeune et plus il répond à des conditionnements qui originent de sa biologie. Dans le sens que presque tous les enfants de 2 ans vont faire des crises de Bacon. C'est-à-dire qu'ils vont se jeter à terre, ils vont taper du poing sur le sol, ils vont hurler parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a beaucoup d'enfants quand ils sont à la crèche ou quand ils rentrent en maternelle, quand il y a quelque chose qui les dérange, ils vont donner un coup, ils vont griffer, ils vont pincer, ils vont pousser l'autre. Ce sont toute une série de réactivités qu'on va voir chez la plupart des mammifères. Donc, plus un enfant est jeune et plus il répond à un conditionnement biologique qui l'amène en fait à survivre. Au fur et à mesure que le temps passe, il va y avoir 2 phénomènes. Le premier phénomène, c'est que comme son néocortex va commencer à maturer, il va se détacher progressivement des réactions de type mammifère pour développer de la cognition, développer du raisonnement, développer de la sociabilisation, d'accord? Mais au début, un jeune bébé, c'est très difficile pour lui de socialiser, il n'a pas encore les ressources pour pouvoir le faire, d'accord? C'est vraiment un apprentissage. Et ce qui va compléter le tout, c'est que comme le cerveau n'a pas atteint sa pleine maturité, en fait, il ne l'atteindra qu'entre 40 et 45 ans, notre cerveau évolue et se développe jusqu'à 40 à 45 ans, d'accord? Eh bien, au fur et à mesure de l'éducation, la société va venir colorer l'éducation de, comment dire, du jeune. Et donc, l'éducation, ça va être la famille, ça va être la crèche, ça va être l'école maternelle, puis l'école, ça va être la communauté des amis, ça va être le club de football local. Donc, tous les éléments vont venir progressivement, venir teindre, en fait, petit à petit, les comportements de la personne. À un tel point, c'est que quand nous, on est rendu adulte, je dirais qu'environ 30% de nos comportements sont encore conditionné par notre biologie, on a des réactions purement d'origine biologique, puis ça, on peut pas lutter trop contre ça, c'est la nature humaine. Il va y avoir 30% de nos comportements qui s'inspirent normalement de la communauté dans laquelle on a grandi, mais on a 40% de choix. Et c'est notre libre arbitre. Ouais. Exactement. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais avec ma biologie? Si je suis en colère, est-ce que je mets un poing dans la figure à quelqu'un? Biologiquement, je peux être conditionné pour le donner. Très utile si je suis en train de lutter contre des Vikings. D'accord? Mais ça fait désordre dans un environnement de travail ou à l'école. Donc, mon conditionnement biologique va être là. Mais en même temps, je vais faire un choix. Et mon choix, c'est d'être un homme pacifique. Donc, je vais renoncer à un coup. Sauf si les Vikings nous attaquent, bien entendu. Là, mon choix devra être autrement, parce que les Vikings nous attaquent. Mais si je suis dans un environnement qui ne nécessite pas de l'agressivité, à ce moment-là, je peux peut-être mettre des mots pour pouvoir exprimer mes choses. Mais si j'ai 5 ans, même à la rigueur, si j'ai 8 ans et que je suis dans la cour de récréation, ça va être beaucoup plus difficile pour moi, petit garçon, de réfréner mon envie d'utiliser mon poing. Il faut donc qu'on m'aide à comprendre que c'est pas des choses qu'on veut faire. Donc, c'est des choses qu'on va faire aujourd'hui pour nos jeunes qui sont dans la cour de récréation. Mais quand j'étais gamin, les batailles entre gars, c'était normal. Qui plus est, quand on était dans une école juste de garçons.
Mmh, ça, c'est du comportemental, mais c'est du physiologique.
Oui.
Juste du comportemental. Ça rentre aussi dans le physiologique.
Non, c'est du... Mais en fait, séparer les deux devient problématique parce que nous sommes des êtres biologiques. Et bien souvent, quand on voit un enfant qui est en crise, quand j'explique à des cliniciens ou j'explique à des enseignants ou à des éducateurs, des puéricultrices, les fondements même de la biologie, je leur dis, regardez, c'est pas un cours de bio. Je vous aide à comprendre pourquoi l'enfant réagit de cette manière-là. Quand, par exemple, on sait que l'enfant avant 20 ans ne peut pas réguler tout seul ses émotions et il a besoin d'une personne de confiance pour arriver à apaiser ses réactivités. Donc, si l'adulte le sait, quand le jeune se met à frapper, par exemple, quand le jeune se met à hurler ou à courir tout partout, si moi, comme personne, comme adulte, je le sais, que je sais que mon jeune ne le fait pas exprès, même si idéalement il devrait se comporter autrement, mon intervention va pouvoir utiliser la bienveillance. Parce que mon premier rôle en tant qu'intervenant, que je sois parent, éducateur ou clinicien, mon premier rôle va être de sécuriser l'enfant. Parce que quand il se désorganise, ça veut dire qu'il a atteint un degré de stress et d'angoisse tellement élevé qu'il n'est plus capable biologiquement d'accéder à ses ressources sociales, d'accéder à son raisonnement, et il va réagir. Et certains jeunes qui sont malmenés pendant des années, d'une famille d'accueil à l'autre, ou dans une famille dysfonctionnelle, ou dans, il vit des traumas éventuellement, ben, on peut avoir des adolescents qui se comportent de manière totalement inacceptable sur le plan social, mais normale sur le plan biologique. Donc, nous, en tant qu'adultes, de le comprendre, de comprendre cela, ça enlève un énorme poids sur nos épaules et ça nous permet d'essayer, coûte que coûte, de créer un lien de confiance avec ce jeune-là et d'essayer de l'aider à diminuer le degré de tension pour enfin être capable de retrouver sa capacité d'entrer en relation avec l'autre et donc d'avoir des comportements sociaux acceptables.
D'accord. Mais l'enfant, l'évolution de l'enfant, sa construction intérieure, qu'elle soit effectivement biologique, cellulaire, cérébrale ou comportementale, en Europe et au Québec, est-ce qu'on peut dire que c'est la même ? On n'est pas dans des civilisations différentes. C'était pour regarder, en fait, si les analyses que vous avez faites là-bas sont valables aussi ici.
Oui, tout à fait, parce que ces éléments-là vont être pareils. Par contre, c'est certain que l'histoire française a une particularité. La France est un pays qui a été, comment dire, non conventionnel à plusieurs moments dans son histoire, qui a revendiqué des libertés. C'est pas le seul pays, mais on s'entend que pour une culture francophile qui nous relie, la France a fait des grandes avancées dans le développement des droits de l'homme, par exemple, ou autres. Et quelque part, cette culture-là va être très, très présente. Alors que si on va, mettons qu'on franchit la frontière en Belgique et qu'on va du côté flamand, la culture éducative flamande est beaucoup plus conformiste, d'accord? Donc la culture va venir en fait jouer beaucoup et on va voir des transitions de comportement à partir de 9-10 ans chez les jeunes flamands parce que là, l'éducation devient de plus en plus importante pour conditionner le comportement du jeune ou tout au moins développer les comportements auxquels on le souhaite. Donc à partir de là, mais le jeune flamand ou le jeune liégeois ou le jeune parisien ou le jeune toulousain, ce sont les mêmes jeunes. La culture va intervenir, mais globalement, biologiquement, on est les mêmes personnes.
Oui, d'accord. Vous êtes en train de nous expliquer quelque part que dans l'évolution et la construction d'un enfant, les racines, l'environnement ont leur importance. On ne déplace pas un enfant d'un continent à l'autre, d'une culture à l'autre, sans qu'il y ait des conséquences, en fait. C'est ce que vous dites, là, quelque part.
Oui, parce qu'on s'entend qu'il y a des manières différentes de vivre la société, même s'il y a beaucoup de ressemblances, parce que nous sommes des sociétés francophones entre la Belgique, la France et le Québec.
Oui, mais je veux dire, en élargissant, par exemple, ma fille a fait ses premières années en Asie, à Bangkok, elle est ensuite arrivée en France, c'est pas anodin, on l'a vu, je connais la réponse à la question, j'ai vu les comportements, c'était pas les mêmes dans la cour d'école comme vous avez dit, là-bas les contacts sont quasiment interdits, la punition vient lorsqu'il y a un geste de violence, puis on arrive en France, dans la cour de récréation, il y a des bagarres de cailloux, donc effectivement les comportements sont différents et les enfants ne savent plus où est la transgression, où sont les tabous, je suppose que ça influe sur leur intériorité aussi.
il y a aussi un héritage génétique qui est transmis. Une des manières que j'aime l'enseigner, c'est que on n'apprend pas à une souris à avoir peur d'un chat.
Elle le sait déjà.
Elle a pas besoin d'aller à l'école.
C'est écrit dedans.
Elle le sait. Il y a une mémoire qui est là.
Oui.
Au Canada, il y a un endroit qui s'appelle la baie de Fundy, qui est en dessous du Nouveau-Brunswick, dans lequel il y a beaucoup de fermes de saumons. D'accord? Et ce qu'on a constaté chez les saumons, c'est que dans les trois premières générations, quand ils font de la reproduction, dans les trois premières générations, au départ d'un saumon sauvage, d'accord? Si le saumon arrive à s'échapper de la ferme de saumon, on s'entend que ce sont des fermes qui sont dans l'eau, d'accord? Eh bien, à ce moment-là, le saumon sait qu'il doit remonter une rivière pour aller frayer. Ouais. Mais à partir de la quatrième génération, il n'y a plus aucune capacité de savoir ce qu'il doit faire. Donc, on voit que ce sont des mémoires qui sont transmises par une partie de notre génétique. Alors, ça veut dire quoi pour nous, les êtres humains? Mais ça veut dire que, par exemple, nous sommes héritiers de nos grands-parents. Nos grands-parents, par exemple, ont vécu la guerre 39-45. Oui. Ils ont vécu des drames à travers ça. Oui. OK? Mais ça a été transmis à leurs enfants si les drames ont vécu avant la fécondation. Et la même chose, les drames que nos parents ont vécu avant de nous féconder et de nous mettre au monde ultérieurement, d'accord? Ça va aussi nous être transmis. Ce sont des mémoires de trauma qui font en sorte que il y a des choses qui vont se transmettre. Mais ce n'est pas une mémoire qui est aussi forte que, par exemple, l'envie de donner un coup de poing si éventuellement on me dérange.
Je comprends, là, ça a été prouvé, ça, je veux dire, les événements qui nous arrivent modifient notre ADN et sont transmis à nos enfants.
Oui, exactement. Et ça fait partie des nouvelles découvertes depuis 10-15 ans, c'est qu'on se rend compte, d'accord, que justement les traumas qui ont été vécus par nos ancêtres ont été transmis. Alors un enfant qui, par exemple, naît dans un environnement extrêmement violent ou qui est abandonné à la naissance, d'accord, il va vivre des choses parce que il est dans un environnement X, mais la manière dont ses parents ont vécu, comment il a été fécondé, si par exemple c'est un enfant qui arrive dans un environnement, mettons, dysfonctionnel, agressif, qui ou manque d'argent, c'est peut-être pour ça que l'enfant a été mis en adoption, qui plus est en adoption internationale. Donc à partir de ce moment-là, d'accord, il va y avoir des traces qui vont rester, qui vont être transmises. Et souvent, ça crée des situations de stress et d'angoisse qui ne sont pas compréhensibles pour la personne. Et on peut petit à petit, quand on fait de la psychothérapie, entre autres, commencer à voir, quand l'histoire de famille est connue, on peut aller éventuellement trouver des origines, mieux comprendre ce qui se passe. Et à partir de là, la personne comprend mieux certaines pulsions qu'elle peut avoir, elle comprend mieux certaines angoisses qu'elle peut avoir et reprendre le dessus. Tantôt, on parlait de libre arbitre dans environ 40% de nos comportements, mais c'est certain que là, ça redonne la possibilité à la personne de pouvoir faire des choix.
Donc, c'est-à-dire que, imaginons, mon père ou ma mère a eu une expérience très impliquante qui l'a beaucoup, beaucoup marqué quand elle avait 21 ans. Il y a des probabilités que moi aussi, à 21 ans, je vive quelque chose de similaire. On arrive à ce niveau-là d'héritage?
Non, ce n'est pas une question d'année en tant que telle, mais si par exemple, je vais vous donner un exemple de ma famille personnelle.
D'accord.
J'ai changé de continent, je n'ai eu aucune problématique de changer de continent. Pour moi, voyager, c'était vraiment facile. Quand je pars en voyage, je ne réserve rarement un hôtel, je le fais un peu plus parce que j'ai des enfants maintenant, mais j'aimais beaucoup partir, d'accord? Au pire, je loue une voiture, puis je fais un bout de chemin où je prends ma voiture et je fais mon bout de chemin. Et ça a toujours fait partie de ma nature. Puis à un moment donné, quand je suis devenu papa, j'ai commencé à angoisser au moment où je sortais de la maison, au moment où je faisais une tournée de conférence, par exemple. Pourquoi est-ce que j'angoisse? Je comprends pas, d'accord? C'était des choses qui étaient toutes nouvelles pour moi. Et à un moment donné, j'ai commencé à me rappeler ce que mes grands-parents ont vécu. Je suis originaire de Liège, qui est la première ville sur le chemin des Allemands quand ils ont décidé d'attaquer la France et l'Angleterre, aussi bien en 1914 qu'en 1940. Donc, ma ville natale, elle a été au cœur des combats pendant des années et des années. Mon grand-père, non seulement il a vécu la Première Guerre mondiale comme enfant, mais lors de la Deuxième Guerre, il a été, comme beaucoup de jeunes hommes de cette époque-là, réquisitionné pour lutter contre les Allemands, parce qu'on savait que les Allemands allaient tôt ou tard attaquer la France. Et donc, en fait, vous le savez que aussi bien la Belgique a résisté pendant la Première Guerre mondiale, dans la Deuxième Guerre, ça a pris 10 jours et il n'y avait plus de Belgique. Mon grand-père a été prisonnier de guerre. Pendant 3 ans et demi, Il a été prisonnier dans un camp de concentration sans savoir si sa femme et sa fille, ma tante, étaient encore en vie, sans savoir si sa maison était encore sur pied. Il a été libéré à un moment donné par les
Allemands. L'angoisse de ses enfants a été inscrite dans son patrimoine génétique.
Oui,
exactement. Quand il a fait ses enfants, vous, non pas au niveau calendrier, mais au fond de vous, était inscrit enfant égale angoisse quelque part, c'est ça?
Oui, exactement. Et quand ma mère est née quelques mois après le retour de mon grand-père des camps de concentration, avec ce que ma grand-mère a probablement vécu elle aussi, eh bien, au moment, tant que je n'avais pas d'enfant et que je n'avais pas ma maison, donc je n'avais pas des conditions qui étaient proches de celles que mon grand-père avait lors de la guerre, d'accord? Mais cette mémoire-là n'était pas réactivée. Et au moment où j'ai eu ma maison avec mes enfants, m'éloigner de la maison devenait angoissant. Alors, depuis que je connais ça, chaque fois que j'ai une angoisse qui monte, ben, je dis, OK, ça ne m'appartient pas, ça appartient à mon grand-père. Mais,
C'est des perspectives énormes, ce que vous êtes en train de dire. C'est qu'un enfant, ce n'est pas anodin, il s'inscrit dans une lignée.
Oui.
Et il y a énormément de découvertes, de lois, de progrès scientifiques actuels qui semblent oublier un peu cette chose-là. Je veux dire, ce n'est pas anodin de prendre du patrimoine génétique ici ou là, de le mettre ensemble, fabriquer un enfant. L'enfant est dans une lignée et avec des racines. C'est ça aussi que vous nous dites là.
Oui, exactement. Donc, il y a des racines culturelles, il y a des racines familiales.
Oui, oui. Il y a des racines génétiques.
Et il y a des racines épigénétiques. Ce sont des mémoires.
Mais oui, y compris dans le comportement et le fonctionnement interne.
Tout à fait.
D'accord.
Et de vraiment le comprendre, c'est que l'objectif de ça, c'est que c'est une question de survie. C'est une question de survie de la race humaine. Donc, de connaître, comment dire, ou d'avoir résisté à une situation extrêmement traumatisante, on transmet cette mémoire de survie éventuellement à notre descendance.
D'accord. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas la rediffusion mercredi prochain à 16h. Bien évidemment, les pages Facebook de l'association, une par département, la page nationale Association Équité Parentale, le site internet, le podcast YouTube, sachant que vous pourrez trouver en ligne la vidéo de cette interview avant évidemment qu'elle soit découpée en plusieurs parties et retravaillée pour la qualité sonore, mais on peut voir Monsieur Monzier échanger en vidéo avec moi pour préparer et travailler cette série de 3 émissions. Eh bien, écoutez, à la semaine prochaine pour la suite. Soyez sages et à bientôt. Ciao, ciao.
RLP. Radio Libre en Périgord.
Jean-Marc Tonnerre.